féminin. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission bi-hebdomadaire de VOA Afrique, le monde au féminin. Nathalie Barge avec vous. Bienvenue à l'écoute de cette édition spéciale Action humanitaire en Afrique, où les catastrophes naturelles amplifient les besoins des populations sinistrées, déjà pour la plupart victimes de conflits armés et autres fléaux récurrents. Au Tchad, près d'1,5 million de personnes ont été affectées par les pluies diluviennes depuis fin juillet, alors que le pays accueille plus d'1 million de réfugiés et compte de nombreux déplacés internes. Il abrite le plus grand nombre de réfugiés soudanais fuyant les conflits dans leur propre pays depuis mi-avril. Un reportage d'André Kodmajingar.
Les multiples guerres au Soudan ont contraint plus de 600 000 réfugiés à fuir leur pays pour venir s'installer dans l'est du Tchad. Ces réfugiés, toutes catégories confondues, se disent bien protégés, même si l'aide humanitaire se raréfie.
Moi, particulièrement, je suis en sécurité. Depuis que je suis là, ça fait déjà 10 ans. J'aime le Tchad parce que c'est un pays solidaire.
Cependant, les jeunes réfugiés qui ont fini leur cursus scolaire au Tchad plaident pour que la loi d'asile soit promulguée pour faciliter leur réinsertion sociale.
Nous les autres, qu'on a eu la chance d'aller à l'université, fréquenter ici, cela nous a permis d'étudier une relation, d'être intégrés dans la société. Maintenant, le plus grand problème, c'est sur la question d'emploi. Nous aimerons que la question de l'emploi des réfugiés soit prise en compte par le gouvernement et que la loi d'asile soit promulguée comme il le faut pour que les réfugiés qui vivent sur le sol tchadien puissent travailler comme ils ont étudié ici.
Une autre femme réfugiée éprouve les mêmes difficultés, même si elle était mariée à un tchadien.
Tu viens demander le travail, on dit que la place est réservée aux tchadiennes, alors que moi j'ai même l'acte de mariage tchadien. C'est malheureux et quand il y a un problème, on dit que tu n'es pas chez toi. Mais sinon, nous remercions vraiment la CEDAN, le HCR et ceux qui sont de près ou de loin qui nous supportent.
La situation des réfugiés soudanais dans l'est du Tchad est peu reluisante, selon la représentante du SR au Tchad, Laura Lou Castro.
Ce pays héberge effectivement 1 200 000 réfugiés dans 4 provinces. Donc le HCR, avec le gouvernement, nous avons essayé d'éloigner les réfugiés des frontières. Mais malheureusement, les ressources ne sont pas suffisantes. L'année passée, ça a couvert seulement 40% des besoins des acteurs humanitaires. Et cette année, on n'est même pas à 10% encore. Donc ça, c'est le problème que nous avons, c'est que la population réfugiée grandit, que les populations tchadiennes demandent aussi un peu d'assistance et que les ressources ne sont pas là. Donc on n'arrive pas à donner suffisamment d'eau, suffisamment de nourriture, suffisamment d'abri. Et nous avons une population très grande, comme vous savez, d'environ 190 000 personnes qui se trouvent encore à Adré, au point de frontière, en attendant d'être relocalisées dans des nouveaux sites aménagés.
Le gouvernement et ses partenaires humanitaires craignent qu'une épidémie se développe dans les quatre province du Tchad où il y a concentration des populations réfugiées. André Kodmajingar, N'Djamena pour VOA Afrique.
Au Cameroun, plus de 160 000 personnes ont été affectées par les pluies diluviennes dans la région de l'extrême nord, où de nombreux enfants sont privés d'école. En avril dernier, le gouvernement avait alerté sur la réduction croissante des aides extérieures pour venir en aide à 3 millions de personnes vulnérables, y compris des réfugiés de pays limitrophes et des déplacés internes dus aux crises sécuritaires. Revenons sur cette crise humanitaire avec un reportage d'Emmanuel Juntap, réalisé avant que le Fonds central d'intervention pour les urgences humanitaires de l'ONU débloque 7 millions de dollars pour le Cameroun début septembre.
La tendance à la baisse des aides pour le plan de réponse humanitaire au Cameroun est telle qu'à peine 32% des fonds attendus l'an dernier ont été récoltés au bénéfice de 2,7 millions de personnes. En 2021, ce plan n'a été financé qu'à hauteur de 51% des prévisions. Et pourtant, 3,4 millions de personnes sont en situation de besoin d'aide humanitaire au Cameroun. Paul Atanganji, ministre de l'administration territoriale.
Nous avons constaté depuis 3 ans chaque année, il y a beaucoup de réduction de ressources, mais je pense qu'il faut reprendre à bras le corps vos engagements de la baisse des réductions financières. Mais sur notre dos, le poids de l'État une charge, n'est-ce pas, très très importante.
En effet, le nombre de réfugiés est croissant au camp de Minao, dans la région de l'extrême nord, qui accueille les Nigériens ayant fui les exactions de Boko Haram. À cela s'ajoute l'afflux des réfugiés centrafricains dans la région de l'Est et les besoins d'assistance humanitaire des Camerounais touchés par l'impact des conflits, de la violence, des chocs climatiques et des épidémies. Siaka Koulibaly, coordinateur résident du système des Nations Unies au Cameroun.
Pour accompagner les efforts du gouvernement, nos priorités vont porter sur l'accès aux services essentiels de base, notamment l'école, l'accès à l'eau, l'accès aussi aux besoins essentiels de ces populations affectées dans ces zones en crise, particulièrement dans la région de l'extrême nord, du nord, mais la région du nord-ouest et du sud-ouest, mais aussi dans la région de l'est où nous avons un afflux important de personnes réfugiées.
Les acteurs humanitaires déplorent par ailleurs les contraintes à l'accès humanitaire au Cameroun. Karen Perrine, chef du bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA.
Les conditions sécuritaires dans certaines régions, elles affectent des populations, mais également des travailleurs et des biens humanitaires. Des enlèvements, des menaces, des vols, des blessures et même un décès ont malheureusement été enregistrés l'année dernière.
Plus de 300 000 déplacés internes de la crise anglophone sont rentrés chez eux et n'ont plus forcément besoin de l'aide. Tandis que de plus en plus d'initiatives de développement mises sur pied par les réfugiés dans la région de l'Est ont permis à ces derniers de sortir de l'assistance humanitaire. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde au féminin qui donne la parole aux femmes sur toutes les questions qui les concernent. Donc, toutes les questions. Je vous propose ainsi d'écouter les réflexions d'une poignée de femmes d'impact africaines sur la question de l'action humanitaire en Afrique.
C'est Dr Rebecca Yabo, présidente de l'ONG Femmes Vecteurs depuis Kinshasa. Je salue et j'encourage les efforts de toutes les organisations qui œuvrent dans l'humanitaire. On le sait bien que il faut être plus humain pour œuvrer dans l'humanitaire. Quels que soient les combats qu'on peut avoir pour l'égalité dans le monde, mais l'impartialité de la vie reste intacte. Et il y a des situations qu'on n'a pas choisies et qui vous tombent dessus et qui vous arrivent. Donc on aura toujours des personnes vulnérables, on aura toujours des personnes qui sont nécessiteuses. Il faut apporter aussi de l'amour, car nous savons que quand une personne est vulnérable, il est financièrement, mais il est aussi psychologiquement. D'où on apporte en matière, on apporte de l'aide financière, de la nourriture, de l'habitation. Mais il faut aussi apporter de l'amour pour les guérir de leurs blessures. Mais il est déplorable qu'on trouve certaines personnes qui apportent de l'aide juste pour être vues sur les réseaux sociaux, pour rabaisser les autres, et c'est vraiment très déplorable.
Betty Darba, je suis artiste musicienne humanitaire. Je suis en RDC, précisément à Goma. Nous sommes de cette génération qui est née de la guerre, qui est née de tous ces conflits, hein. Mais au-delà de ça aussi, nous sommes dans une région volcanique. Du coup, il y a beaucoup de facteurs qui suscitent de l'aide humanitaire. Par exemple, j'ai créé Yola Academy, Yola Collection déjà. Au départ, c'était pour valoriser le Yola, c'est-à-dire le panafricain. Mais au-delà de ça, je me suis dit, il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup de jeunes femmes qui sont réfugiées, qui sont déplacées et qui, à cause de la guerre, à cause du déplacement massif, hein, n'arrivent pas à se réinsérer vraiment en termes de réinsertion communautaire. Alors, nous avons créé la branche Yola Academy pour pouvoir aider ces femmes avec certaines formations dans la couture, dans le maquillage, dans la coiffure, mais aussi dans la musique pour essayer d'éveiller ce côté artistique de ces personnes vulnérables et que cela leur permette de gagner de l'argent, bien sûr, et pouvoir être indépendante financièrement. Au-delà de ça, je représente aussi une organisation qu'on appelle Free the Slaves, qui travaille dans la lutte contre l'esclavage moderne et je suis la coordinatrice de programme en RDC. Alors notre travail aussi de ce côté-là est vraiment basé dans la prise en charge, la protection, la prévention des survivants et des victimes de tout ce qui est esclavage moderne et trafic d'êtres humains, du mariage forcé, du travail forcé, de la domesticité forcée, de la mendicité forcée, etc. Et vu que la RDC a carrément 9 pays limitrophes, et au-delà de ça, il y a le commerce transfrontalier, ce qui favorise un peu le déplacement massif des populations d'un pays vers un autre. Et cela favorise le trafic d'êtres humains. Hein. Alors nous luttons contre cela parce que ces gens se retrouvent à vivre des situations de prostitution forcée. Et de ce côté-là, nous nous aidons aussi. Alors l'aide humanitaire est très importante, surtout à l'est de la RDC, parce que ça va faire plus ou moins 30 ans qu'il y a la guerre. Et comme on dit, quand les éléphants se battent, ce sont les herbes qui en payent les prix. C'est la population qui en paye les prix. Il suffit juste de vous promener dans la ville. Il y a plein d'enfants qui sont devenus enfants de la rue, en fait, à cause du déplacement massif des gens qui fuient la guerre. Il faut voir ce qui se passe lorsqu'il y a éruption volcanique, par exemple. Donc, tout cela, ce sont des situations qui ont vraiment besoin d'une forme d'aide, bien sûr. Et j'en profite pour remercier toutes ces personnes, toutes ces organisations qui ont ce cœur-là de vouloir venir en aide à d'autres. C'est quelque chose à féliciter, à encourager. C'était Déti Darba depuis la RDC.
Je suis Élise Zola, CEO de Ilera World, dont il y a deux branches, une branche cosmétique naturelle bio, une autre qui est le coaching santé au naturel pour avoir une santé optimale avec des produits naturels, puisque je suis pharmacienne, naturopathe, nutrithérapeute, puis je suis activiste. L'aide humanitaire est une action très intéressante pour beaucoup de pays dans le sens où elle permet de se relever de certaines difficultés sociales, des difficultés qui ont été causées par les dégâts de la guerre. La seule chose que je trouve un tout petit peu comme une note négative à tout ça, c'est que cette aide humanitaire est souvent détournée de son axe principal d'action, dans le sens où toutes ces ONG qui viennent s'installer dans ces pays qui auraient besoin d'aide humanitaire en profitent. Je pense qu'une aide humanitaire doit être sur un intervalle de temps bien précis, dans le sens où elle ne doit pas perdurer des décennies, puisque perdurer des décennies, ça veut dire qu'on n'arrive pas à résoudre le problème, qu'on n'arrive pas à aider la population locale de telle sorte qu'elle se prenne en charge. Et donc, c'est là pour moi où le bât blesse concernant l'aide humanitaire. Et puis, l'aide humanitaire, moi, je pense qu'elle doit être vraiment axée, qu'on ne vienne plus aider des populations démunies, des pays en guerre ou toute autre contrée qui aurait besoin de se reconstruire ou d'abolir certaines pratiques qui sont vraiment désuètes avec des choses, on va dire, simples. Mettons des choses en place, mettons des plateformes, par exemple en Guinée, je sais que pour l'excision, on a fait des belles choses avec des plateformes d'enseignement, de formation, d'information même, et ça a porté ses fruits. Mais je veux dire, quant au reste, je ne me donnerais pas le droit de pouvoir répliquer pour la simple et bonne raison que je pense qu'il y a quand même beaucoup de dérives concernant certaines aides humanitaires. Donc pour moi, l'aide humanitaire devra être cadrée, devra être bien axée et surtout ne pas perdurer des siècles et des décennies.
Je suis Marie-Desange Lumo-Chamamba. Je suis congolaise de la RDC. Je suis juriste et pédagogue de formation. Je suis humanitaire depuis maintenant 14 ans. C'est particulièrement en tant qu'experte en assurance qualité de projet que j'ai le plus et que je continue aujourd'hui à réaliser les besoins persistants par rapport à l'aide humanitaire au sein de la société congolaise, mais aussi burundaise, parce que j'ai travaillé dans ces deux pays. Et particulièrement l'engagement au droit de la norme fondamentale de qualité à laquelle toutes les structures humanitaires sont censées. ce référé qui stipule que la réponse humanitaire renforce les capacités locales et évite les effets négatifs est une norme qui attire particulièrement mon attention actuellement par rapport aux besoins, mais également la norme 8 qui stipule que le personnel est soutenu pour réaliser son travail efficacement et est traité de manière juste et équitable. J'ai réalisé que à ces deux niveaux-là, les structures humanitaires ont besoin de fournir beaucoup d'efforts. Actuellement, particulièrement à l'est de la RDC, nous avons comptabilisé plus de 400 organisations ONG humanitaires. Et le grand souci, c'est que quand on réalise cette présence si forte des structures humanitaires, il y a vraiment beaucoup d'inquiétudes parce que il y a très peu d'impact. Nous réalisons que oui, il y a des effets assez individualisés des différents projets et au sein des certaines contrées, mais de manière générale, si nous devons parler d'impact, il y a un grand problème de l'intervention ou l'aide humanitaire en RDC en termes d'impact. Et je pense que ça, c'était une des raisons pour laquelle les différents cadres de coordination de la réponse humanitaire avaient opté pour l'approche de la localisation de l'aide dans le sens de renforcer plus les capacités des structures locales pour pouvoir apporter une aide adaptée et appropriée conformément à la règle 1 de la norme de l'assurance qualité des projets humanitaires. Et là, je réalise que les structures ont vraiment besoin de travailler sur les personnes. Parce que déjà, si les personnes qui travaillent sur l'aide humanitaire au sein des structures ne sont pas motivées, ne sont pas honnêtes, ne sont pas suffisamment accompagnées pour être efficaces dans leur travail tout en progressant individuellement, c'est très difficile d'avoir de l'impact. Et aussi, j'ai réalisé que les stratégies de renforcement des capacités locales ne sont pas adaptées aux besoins. Le renforcement des capacités se focalise sur un petit aspect qui cadre avec le projet. C'est pour ça que moi, particulièrement, j'ai aimé la stratégie de Well-Grounded qui met en place des processus beaucoup plus complets par rapport aux différents domaines où les organisations ont besoin d'être renforcées en capacité. Dernier, je voudrais parler de la deuxième règle de la norme fondamentale de qualité qui parle de la réponse humanitaire qui doit être efficace et fournie à temps. J'ai travaillé dans une structure, j'ai fait des descentes sur terrain dans des camps des déplacés qui ont fui leur contrée sur base de la crise M23. Et c'était inacceptable, voire même scandalisant de voir que des personnes humaines mouraient de faim dans une zone où il y a plus de 450 ONG internationales et nationales qui interviennent dans le domaine humanitaire. Il y a tellement de procédures qui alourdissent l'accès des bénéficiaires à l'aide qu'il est important pour les structures de revoir cet aspect. Les procédures sont nécessaires, mais quand elles ne travaillent plus pour la personne qui doit en bénéficier, qui est censée avoir l'aide à temps et de manière efficace, eh bien, il faut revoir ces procédures, alléger les procédures des structures pour que dans des situations comme celles que nous avons vécues et que nous continuons à vivre à l'est de la RDC, que ce défi de l'accès à l'aide soit vraiment revu et que ce soit résolu. Ce sont les personnes humaines qui sont au centre de cette aide humanitaire, ce ne sont pas les procédures. Les procédures sont censées travailler pour les personnes humaines et pas le contraire.
Elodine Tamuzinda, initiatrice de la dignité humaine ASPEL, membre de la synergie des femmes pour la paix et la sécurité et membre du consortium des réseaux des femmes.
Nous pouvons avoir ces crises humanitaires, mais nous savons que ce sont des conséquences des situations mal gérées. Il y a des situations politiques, il y a des situations sociales, mais aussi des situations économiques et d'autres secteurs de la vie. Lorsque c'est mal géré, il y a toujours des conséquences. Oui, parmi les catastrophes, bien sûr, il peut y avoir des catastrophes naturelles qui émanent des cas de force majeure. Mais il y a d'autres qui viennent directement de ces mauvaises gestions, de ces situations. Et c'est pour cela que nous, comme acteurs de la société civile activiste, notre apport, c'est d'abord de connaître, de faire le diagnostic du problème, comprendre l'origine et savoir quelles sont les parties prenantes qui doivent être approchées, puisque le problème ne peut pas continuer à se traiter de par les conséquences, mais trouver l'origine des conflits, l'origine des problèmes, l'origine de ces situations et proposer des pistes de sortie. Malheureusement, nous sommes juste au niveau des propositions et notre contrôle citoyen est faible. Comme vous le savez, il y a des acteurs et activistes de la société civile qui sont devenus soit politiques d'une manière ou d'une autre et qui ne sont plus à même d'exercer ce contrôle citoyen puisqu'ils croient que c'est contre telle ou telle autre idéologie. Malheureusement, et c'est là où nous sommes interpellés, mais notre travail, c'est de diagnostiquer, de sensibiliser, de mener les plaidoyers, mais aussi de faire ces suivis pour voir si les plaidoyers que nous menons trouvent son gain de cause. Et même, nous avons notre part de responsabilité, toute la société, et donc nous ne pouvons pas continuer à dire que nous allons apporter des bâches, par exemple, pour les déplacés, apporter la nourriture avec le PAM pour les vulnérables, apporter des médicaments pour ceux qui sont malades suite aux guerres ou aux conflits. Il faut juste trouver des solutions en amont, et les solutions, c'est entre nos mains. Si nous ne pouvons pas nous mettre ensemble pour réfléchir, nous ne pourrons pas croire que ce sont les animaux qui les feront à notre place. Donc nous sommes obligés de vivre ensemble, de cohabiter, et c'est cette cohésion qui va nous mener à de bonnes réflexions d'ensemble et autour d'une même table à tous les niveaux que ce soit.
Je suis Madame Doucouré Asmaouba, guinéenne syndicaliste. Je défends les travailleurs domestiques. Les travailleurs domestiques, ce sont des personnes sous-évaluées, sous-payées, exploitées, violées et violentées physiquement et moralement. Pour lutter contre ce fléau, il faudrait qu'il y ait la sensibilisation à tous les niveaux. Non seulement les parents doivent arrêter d'envoyer leurs enfants loin d'eux. Si nous prenons des personnes qu'on envoie en confinage, quand on parle de confinage, c'est-à-dire des enfants, des petites filles qu'on envoie dans les grandes familles et en éducation. Ce sont des enfants et des petites filles qui ne vont pas à l'école, qui sont là uniquement pour faire le travail domestique. Ils sont privés de leur éducation. Et ils ne reçoivent aucun salaire à la fin du mois, sauf qu'on leur donne des habits usés. Et il y en a qui sont là parmi les enfants et les jeunes filles qui sont exploitées sexuellement, qui sont violées et violentées physiquement et moralement. Une exploitation et l'esclavage qui ne dit pas son nom. Et on trouve les mêmes cas, non seulement dans le travail domestique, mais dans le travail de l'agriculture, c'est les concessionnaires, dans le travail de construction et autres. Pour lutter contre ces fléaux, il faudrait que les gouvernements, les décideurs, fassent une sensibilisation à tous les niveaux et appliquent les textes et les lois qui protègent ces personnes qui sont maltraitées.
Je suis Sandrine Akafou, secrétaire générale du syndicat des travailleurs domestiques de Côte d'Ivoire. Je pense qu'il faut agir tout sur le plan politique et humanitaire. La population souffre de ces nombreux conflits en Afrique. Jusqu'à quand nous serons en train de recevoir des aides humanitaires en Afrique si nous ne réglons pas en amont les vrais problèmes qui causent le nombreux déplacements vers une quiétude et un mieux-être? Chaque être humain aspire à un bonheur, et le bonheur n'est pas seulement la nourriture et le bien, mais une paix dans son pays pour pouvoir se construire.
Chères auditrices, chers auditeurs, c'est ici que se referme Le Monde au Féminin. C'était Nathalie Barge avec vous. On reste en contact. Bon courage et à très bientôt.